Voici Robert Pilote.
Activité pour le Bloc québécois ce soir dans la région. Le chef Yves-François Blanchette sera probablement de la partie. Il est notre invité maintenant. Monsieur Blanchette, bonjour.
Bien, bonjour, Monsieur Pilote. Hey, je remarque que Catherine, lorsqu'elle parle des drinks du Saguenay, elle retrouve beaucoup plus son accent saguenéen.
Puis une sauterelle, moi, c'est la première nouvelle que j'en ai de ça. Je ne sais même pas.
Je n'avais jamais entendu parler d'une sauterelle non plus, mais la connaissance en drink des gens du Saguenay est célèbre.
Oui, alors, puis crème de menthe verte. Tu sais, moi, je la ramène, celle-là, parce que je me souviens que mes parents, dans le temps des fêtes, ils se constituaient le bar du temps des fêtes, puis il y avait toujours une petite bouteille de crème de menthe blanche et de crème de menthe verte. C'était à mode, ça, dans les années 70.
Ben, en fait, c'est ça, c'est que la crème de menthe verte a cette vertu, c'est que t'as pas besoin de boire beaucoup pour être malade.
Mal de tête assuré. Puis ça goûte le scope, sauf que tu l'avales.
Ah, oui. Bon, OK, on va faire une entrevue sérieuse.
Oui, non, mais c'est toujours sérieux. On commence comme ça, puis après ça, ça déboule dans le sérieux. Avant de parler de politique canadienne et québécoise et de ce qui va se passer dans Saint-Maurice-Champlain plus tard aujourd'hui, un commentaire, un mot sur ce qui s'est passé à Paris?
Oui, c'est assez difficile. Moi, j'ai reçu ça un peu comme un coup de pelle parce que j'ai eu la chance, c'est pas tout le monde qui a eu ce privilège-là, j'ai eu le grand privilège d'être allé à Paris assez souvent dans ma vie. Je suis pas allé 25 fois, je suis pas allé une fois. Et à chaque fois, c'est pas un pèlerinage, c'est pas un gars très religieux, mais je suis un gars très culturel. Et je vais toujours me promener sur les quais de la Seine, puis je passe devant, puis je me promène en avant de la cathédrale. C'est un endroit que j'ai beaucoup fréquenté. C'est un endroit qui a pas d'âge. C'est un endroit qui est en dehors du temps et de l'histoire. Et de voir ça dévasté comme ça, c'est sûr que ça donne un grand coup. Puis après ça, mon autre pensée, c'était mettez-vous à la place des gens dont toute l'activité humaine et l'activité commerciale et l'activité touristique autour de la cathédrale qui va être complètement dévastée aussi. Il me semble que les Parisiens, là, ils l'ont eu dur dans les dernières années. Les attentats, les problèmes de mille natures, les manifestations agressives, il serait temps que le destin lui donne un petit break, là.
Ça, c'est vrai. Hein? Est-ce que ça va... Écoute, je ne dis pas mettre un terme, mais quand même mettre, je ne sais pas, un couvercle sur la marmite de cette pression sociale qu'il y avait autour des carrés jaunes. Des gilets jaunes.
Ouf! Bien dur à dire. Les gilets jaunes n'ont pas l'air d'être motivés ou de manquer de motivation pour arrêter leur mobilisation. Ils carburent à l'impopularité. Fondamentalement, au-delà des revendications, c'est un mouvement qui carbure à l'impopularité du président actuel. Et même si ça pouvait faire une pause de solidarité entre tous les Français pour un moment, je ne suis pas sous l'impression que la grogne en France va s'apaiser.
Et au Québec, on fait quoi? L'exemple qu'on a sous les yeux maintenant, c'est que c'est précieux. Sans parler de religion catholique ou de foi, ce sont des bâtiments dont l'architecture est extraordinaire et on a plusieurs modèles ici au Québec. On fait quoi, nous autres, de notre côté?
En fait, je pense que l'âge et les matériaux sont certainement des critères, mais ça serait épouvantable d'imaginer la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal qui passerait au feu, ce serait épouvantable, ou même dans chacune de nos municipalités et dans nos villes. On a des monuments, le plus gros du patrimoine architectural québécois, qu'on soit religieux ou pas, là, c'est pas ça le point, c'est beaucoup dans nos constructions à caractère religieux. Ça pour ici, à chaque fois qu'une communauté perd un immeuble de ce type-là, il y a eu tout l'enjeu pendant plusieurs années qui existe encore du clergé, de l'Église qui abandonne les églises puis qui veut carrément les donner aux municipalités. Puis les municipalités sont pas capables de trouver le financement pour en faire autre chose. Ce qui fait que dans bien des cas, moi, dans mon village natal à Saint-Edmond-de-Grande-Tampe, ils vont démolir l'église ou quand j'étais petit parce que les gens veulent pas payer pour la restauration, puis l'État est pas capable de dire qu'il va payer la restauration de centaines et de centaines et de centaines d'églises. Donc, forcément, il y en a qui sont abandonnés. Puis ça fait tomber des morceaux de notre patrimoine architectural.
Point à la ligne là-dessus. Activité dans le comté de Saint-Maurice-Champlain aujourd'hui?
Ben oui, on s'en va vers une espèce de record récent pour le Bloc, là, selon les informations que j'ai, puis je m'en suis pas mêlé parce que j'ai pas de mérite là-dedans. Selon les informations que j'ai, la cueillette de financement en vue d'élection dans la circonscription va être assez exceptionnelle. Les les différents, comment dire, les différents clans souverainistes du comté se sont solidement ralliés autour de Pierre Jolivelle. Ils ont monté une belle activité. Moi, j'ai très hâte de voir ça. J'ai très hâte de voir comment les gens vont être. Puis, encore là, je m'en suis pas mêlé. Je vais arriver là comme si j'arrivais dans n'importe quelle autre ville au Québec, là, voir comment les gens. Hier, j'étais dans Sherbrooke, je m'attendais à une petite salle avec, comme dans bien des endroits, on recommence à monter une organisation, les attentes sont basses. Et non, écoute, il y avait une centaine de personnes, le monde était debout en arrière. J'avais l'impression d'être en plein cœur de campagne électorale. Que je suis assez optimiste pour ce soir.
Pierre Jolivet, ses parents avec M. Jolivet, l'ancien député?
C'est le fils, c'est un des très nombreux fils de Jean-Pierre Jolivet.
Donc, quelqu'un qui a baigné dans la politique. Quand on connaît Jean-Pierre Jolivet, c'est un député qui a duré à l'Assemblée nationale. Donc, c'est
23 ans. De mémoire, il a été là 23 ans. Et ça a une valeur symbolique qui est importante pour moi, parce qu'on dit souvent du mouvement souverainiste qu'il n'y a pas de relève, puis c'est une affaire de vieux, puis des affaires de même. Et moi, je sollicite et j'accueille parmi nos candidats des enfants de gens qui l'ont été. C'est une manière assez symbolique, mais aussi d'aller chercher, c'est à la fois d'aller chercher une expertise, parce que, comme tu dis, ils ont baigné dedans, mais aussi il y a quelque chose de symbolique, c'est le passage d'une génération à une autre. L'âge moyen des candidats du Bloc québécois aux prochaines élections risque d'être très bas, même s'il y a plusieurs anciens élus qui vont me procurer l'expérience dont j'ai besoin pour encadrer un groupe de quelques dizaines, on ne sait pas combien ce sera, mais de quelques dizaines de jeunes députés du Bloc, mais ça va en prendre des gens qui ont plus de métier en arrière de la cravate pour être capables de les encadrer et de leur expliquer comment ça fonctionne. Fait que Pierre est un des nouveaux jeunes, c'est très sympathique, et dans d'autres endroits, il y a des candidats qui ont déjà été, il y en a qui ont déjà annoncé leur intention. Christiane Gagnon à Québec a annoncé son intention, en tout cas laisse rouler l'intention qu'elle pourrait revenir. Claude de Bellefeuille aussi dit qu'elle voulait revenir. Et il y en a d'autres qui sont des anciens qui expriment le désir d'être de nouveaux candidats avec nous. Pendant que moi, je vais chercher, c'est le fils de Gilles Duceppe, Alexis, qui a confirmé en fin de semaine, qui est un gars hyper attachant, d'une quarantaine d'années, jeune père, qui va être candidat dans l'Ac Saint-Jean quand même.
Ça prend du culot, revenons dans Saint-Maurice, ça prend du culot quand même pour se présenter contre M. Champagne. Écoute, il a gagné avec une majorité, je ne sais pas combien de milliers de votes la dernière fois. Il y a une part de bravoure dans tout ça.
En fait, le contexte général fait que les libéraux vont être moins forts qu'ils l'étaient. Je pense que le ralliement des souverainistes de Saint-Maurice-Champlain derrière la candidature de Pierre Jolivet, puis tu m'entends penser, même si je ne le dirai pas, va être très, très, très différent de ce qu'on a connu en 2015. Moi, je pense qu'il n'y a absolument rien de joué. La machine souverainiste de Saint-Maurice-Champlain a beaucoup de victoires à son actif. Les libéraux ont eu une partie gratuite la dernière fois. Ils n'auront pas une partie gratuite cette fois-ci. Et j'aurai toute la campagne pour répéter avec Pierre Jolivet que les calembres d'aine sur les emplois du centre fiscal et tout, c'est carrément des faussetés, là. Il n'y a pas une personne au centre fiscal de Shawinigan qui travaille sur des déclarations d'impôts. Qu'on change le building ou qu'on ne change pas le building, là, ça ne change absolument rien aux emplois de Shawinigan, si jamais les gens décident de soutenir un parti qui favorise, comme la totalité de l'Assemblée nationale du Québec, là, 100% des députés favorisent la déclaration d'impôt unique. Ben, c'est le genre de choses qui peuvent faire des différences dans des comtés. Les gens veulent se faire dire les vraies affaires.
Vous avez bien raison. On se reparle. Bonne soirée, puis bon séjour chez vous, en fait.
Ben, merci beaucoup.
À bientôt.
Bye-bye.
Yves-François Blanchette, il est le chef du Bloc québécois. Ce soir, activité de financement au profit de la campagne de Pierre Jolivet, le fils de Jean-Pierre Jolivet, à qui j'ai eu l'occasion de parler souvent.